Martin Kobler, merci de répondre aux questions de la radio des Nations Unies. Martin Kobler, donc vous êtes le représentant spécial du secrétaire général pour la RDC, la République démocratique du Congo, et également le patron de la mission des Nations Unies sur place, donc la MONUSCO. Vous êtes arrivé il y a 5 mois sur place, venant d'autres missions. C'est une situation très particulière qu'on connaît en RDC depuis longtemps. L'ONU est présente depuis maintenant 14 ans. Il semble que la mission est encore à rester pendant quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, par rapport à la description que vous faisiez devant le Conseil de sécurité il y a quelques heures finalement, est-ce que la situation aujourd'hui au Congo est quand même encourageante? Est-ce qu'il y a des éléments d'optimisme par rapport déjà ne serait-ce que depuis votre arrivée?
Voilà, je crois c'est une très bonne question et je suis un homme optimiste ici, mais il faut dire qu'on a aussi du risque dans le développement. Je suis très optimiste parce que nous avons maintenant de nouveaux éléments. On a la brigade d'intervention, on a une force plus robuste qu'auparavant, on a l'accord cadre d'Addis Abeba, on a une cohésion internationale que nous avons entre les envoyés spéciaux, Mary Robinson, les envoyés spéciaux des États-Unis, de l'Union européenne, Union africaine. Je crois que ce sont des éléments positifs. C'est pourquoi je suis au principe optimiste. Mais on a aussi des problèmes. On a beaucoup de problèmes à l'est du pays, avec les groupes armés, avec la consolidation d'état de droit, de l'état. On n'a pas de service de base pour la population. Ce sont des problèmes qu'il faut adresser, et aussi les causes racines, les profondes causes du conflit, comme le minerai. C'est notre travail pour 2014, je crois. Mais je suis optimiste parce que nous avons de nouveaux éléments en place et je crois que c'est un développement très très bien.
Alors l'ONU est souvent amenée justement au Congo à agir un peu comme un pompier pour essayer d'éteindre les incendies. Parfois donc certains peuvent être éteints, d'autres se rallument. Il y a ces acteurs régionaux, on pense bien sûr, vous parliez des rebelles, mais il y a aussi les pays qui sont derrière ou qui les soutiennent. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, il y a, avec l'approche dont vous parliez, les envoyés spéciaux notamment, avec le processus donc qui a été lancé à Addis Abeba, on va fêter bientôt donc la première année de l'accord cadre donc d'Addis Abeba, également le processus, je pense, de Kampala, plus particulièrement par rapport au M23 et aux autres questions, est-ce que tous ces éléments donc aujourd'hui sont à même de faire en sorte qu'on peut agir et non pas réagir, comme vous l'avez dit, et surtout de travailler dans le long terme?
Voilà, je crois que c'est très important que nous avons la philosophie d'agir, pas de réagir. Je suis très content qu'on a l'intérêt international. J'étais, comme vous avez dit, au Conseil de sécurité il y a quelques heures, et c'est très bien que le Conseil de sécurité exprime cet intérêt pour la MONUSCO, exprime l'intérêt pour notre travail, pour la force, pour notre combat contre les groupes armés. Je crois que c'est très bien qu'on a ces sessions du Conseil de sécurité presque une fois par mois, parce que ça nous renforce, ça nous donne de confiance et ça nous donne aussi l'encouragement pour la force de remplir notre mandat. Mais comme j'ai dit, alors c'est à long terme, c'est très important alors d'adresser les causes profondes du conflit. Ce sont le minerai, c'est la bonne gouvernance, c'est le retour de l'autorité, la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC, c'est très important. Et on doit financer toutes ces actions parce que la force, c'est un élément. Mais la restitution de l'autorité de l'État, c'est le deuxième. Et vous avez mentionné la région, c'est aussi très important d'avoir la coopération avec les pays voisins. Et quatrièmement, il faut vraiment avoir les causes profondes, les minerais, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption dans le pays, parce que le pays est riche. L'État, le budget du pays de la RDC, c'est 8 milliards de dollars. C'est rien en comparaison avec environ 80 millions d'habitants. Il faut vraiment traquer les groupes armés afin qu'ils ne contrôlent pas les minerais du pays.
Alors justement, souvent, certains qualifient carrément le Congo de scandale géologique, en parlant de toutes les richesses et des ressources naturelles, qui suscitent bien sûr beaucoup de convoitises, tant à l'intérieur d'ailleurs qu'à l'extérieur. Sur les pays un peu limitrophes, on parle souvent comme si c'était des observateurs du Rwanda, de l'Ouganda ou encore du Burundi par exemple. Est-ce qu'il y a également un message à apporter? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un durcissement du ton pour essayer de faire avancer et notamment de promouvoir cette intégration régionale et intégration économique?
Voilà, je crois le message est très très clair pour les pays voisins. Alors c'est que la stabilité est mieux que l'instabilité. On avait l'instabilité en particulier à l'est du pays alors pour maintenant 20 ans. Mais la stabilité, la réintégration de l'est du pays dans une réintégration économique, je crois c'est très important. On a les richesses doivent être exportées. On a un échange aussi des personnes, des populations entre le Rwanda et l'est du Congo. On a le commerce qui doit fleurir. Alors ce sont des choses qu'il faut adresser et qu'il faut discuter avec les pays voisins. Et je crois que c'est le futur. L'est du pays, l'est de la RDC doit avoir le centre de gravité économique aussi ici et ça profite aussi les pays limitrophes.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de partition, ne serait-ce que de fait, sinon de droit, de l'Est de la RDC?
Non, pas du tout. J'entends cet argument très très souvent, mais je crois que c'est pas du tout justifié. Le pays doit être décentralisé. On a dans les critères de l'accord d'Addis Abeba, de l'accord cadre, on a ce sujet de décentralisation. Pas de partager le pays, mais d'avoir un système efficace en place de décentralisation politique sur les élections. Il faut avoir un parlement provincial. C'est pas partition du pays. Alors c'est renforçant les provinces. Le système budgétaire doit être réformé aussi parce qu'il faut avoir l'argent dans les provinces. Ce sont toutes des mesures de renforcer le pays, pas de le partager.
Vous parliez également du concept d'îlot de stabilité, donc ça c'est pour le pays, c'est pour essayer donc de reconquérir, on va dire, des espaces tant en termes économiques qu'administratifs. Est-ce que le rétablissement de l'autorité de l'État notamment, c'est vraiment une priorité aujourd'hui?
Oui, je crois que la force seulement, c'est pas suffisant. Il faut accompagner nos actions militaires par le concept des îlots de stabilité, de restitution de l'autorité, de garantir les services de base, les écoles, les hôpitaux. Alors c'est très important qu'on avait ce qu'on appelle en anglais peace dividend, dividend de paix, quelque chose comme ça. Les gens doivent voir que la paix durable leur profite. Aussi, c'est bien pour le peuple, c'est bien pour les pays voisins. Les îlots de stabilité accompagnent le procès militaire. Après le procès militaire, la libération des territoires, il faut restituer l'autorité de l'État avec notre soutien. Nous, de la MONUSCO, des Nations Unies, nous ne sommes pas là pour remplacer l'État. C'est pas possible. La première responsabilité, c'est l'État, c'est le gouvernement de la RDC de rétablir leur police, rétablir le système judiciaire, aussi les services de base. Nous pouvons soutenir, leur assister de le faire, mais pas de le remplacer. C'est le concept des îlots de stabilité, d'avoir police, d'avoir armée, d'avoir des services de base, les hôpitaux, les écoles, et puis les gens voient. Qu'on a un vrai progrès et un vrai paix durable, une paix durable.
Dernière question concernant le financement de ce développement économique. On le disait, le pays regorge de ressources naturelles. Est-ce qu'aujourd'hui il faut faire appel à l'aide internationale pour relancer le pays, ou est-ce qu'il y a un nouveau modèle à créer pour, à partir des ressources du pays, justement financer ce développement, cet avenir?
Voilà, je crois que c'est très important que j'ai parlé sur le budget du pays, d'avoir la communauté internationale de financer une partie des actions du gouvernement. Parlons des élections. Les élections dans ce pays immense coûtent de l'argent. Alors c'est très important que ça doit être financé. La police, Ça coûte l'argent, il faut les payer. Mais il faut premièrement exploiter les minerais du pays, parce que nous en avons parlé. C'est un pays énormément riche, avec les minerais, avec l'or, avec le coltan, avec les minerais de conflit. Si on légalise l'exploitation, mais aussi le commerce de minerais, alors on a plus d'argent dans le budget du pays et ça finance aussi les projets. Mais il faut avoir l'engagement de la communauté internationale aussi de ne laisser pas le pays seul, parce que il faut promouvoir la réinsertion des ex-combattants, des groupes armés dans la vie sociale, dans la vie politique du pays, avec aussi des programmes de formation qui doivent être financés par la communauté internationale. Nous, de la MONUSCO, avec l'équipe pays, nous sommes en contact avec les bailleurs de fonds pour contribuer à financer les programmes du gouvernement.
Martin Kobler, merci.
Merci bien.